VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 27 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. 45e vendredi de contestation en Algérie avec une mobilisation moins importante que d'habitude. Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ont convenu qu'ils rejetaient l'exploitation étrangère du conflit en Libye alors que la Turquie veut envoyer des troupes dans le pays. La France a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer l'emprisonnement de deux universitaires. La Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des exercices navals conjoints dans l'océan Indien et le golfe d'Oman. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. En Centrafrique, de nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins 30 personnes au PK5 à Bangui. 33 corps ont été apportés à la mosquée. Ali Babolo a affirmé l'imam Awad al-Karim, selon lequel les commerçants ont pris des armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier. Une source sécuritaire évoque au moins 30 morts, tandis que la Croix-Rouge centrafricaine établit un bilan de 33 morts. Ouverture à Brazzaville du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail au pouvoir, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021. Des milliers de membres et militants venus de toutes les régions du pays et également d'Europe prennent part aux travaux qui se poursuivront jusqu'à lundi. Des représentants des partis communistes chinois et cubains, du mouvement populaire pour la libération de l'Angola ou encore du Front patriotique rwandais sont au rendez-vous. Le secrétaire général sortant du PCT, Pierre N'Golo, a exhorté ses camarades à la discipline et à travailler pour le bien-être des Congolais. 45e vendredi de contestation en Algérie. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues, toutefois moins nombreuses que d'habitude. Le point avec Abdourahmane Dia.
Comme chaque vendredi, la mobilisation a commencé juste après la fin de la grande prière hebdomadaire. Toutefois, elle semblait l'une des plus faibles depuis le début du Hirak, le mouvement populaire inédit et massif de contestation pacifique du régime, lancé le 22 février. Le nouveau président, qui est entré en fonction le 19 décembre, vit donc son deuxième vendredi de manifestation. Les manifestants interrogés ont affiché une certaine colère, mais aussi de la détermination à poursuivre le mouvement. Nous, on est là, on continue le combat, témoigne Hossein, fonctionnaire de 50 ans dans le cortège où sont brandis de nombreux portraits de Ramdan Aban, dirigeant politique historique du Front de Libération Nationale, assassiné il y a 72 ans, jour pour jour. Ce matin, bien avant la manifestation, les Algérois ont paru partagés sur la suite à donner au mouvement. Certains se sont montrés déterminés à continuer, d'autres se sont prononcés en faveur du dialogue ou de nouveaux modes d'action.
Convergence de vues entre Washington et le Caire sur la crise libyenne. Selon la Maison-Blanche, les présidents Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi rejettent toute exploitation étrangère de ce dossier. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans un entretien téléphonique jeudi, les leaders américains et égyptiens ont exhorté les partis en guerre en Libye à prendre des mesures urgentes pour résoudre le conflit. Leur conversation est intervenue quelques heures seulement après que le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite en Tunisie, a annoncé son intention d'envoyer des troupes pour appuyer le gouvernement libyen d'Union nationale, le GNA, reconnu par la communauté internationale. Le GNA fait face à l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle la partie orientale du pays. Ce dernier bénéficie du soutien de la Russie, de l'Égypte, des Émirats arabes unis et s'est entretenu au téléphone en début de mois avec le président Donald Trump. Le maréchal Haftar affirme que sa mission est de débarrasser la Libye des milices extrémistes soutenues par les frères musulmans, le Qatar et la Turquie.
Plusieurs voix se sont élevées ce vendredi pour dénoncer l'arrestation du journaliste marocain Omar Radi, placé en détention la veille pour avoir critiqué sur Twitter une décision de justice. Le militant a été entendu hier par la police judiciaire qui l'a déféré devant le procureur qui a décidé de le placer en détention. Ses avocats ont demandé sa remise en liberté provisoire, ce qui a été rejeté par le tribunal de première instance de Casablanca. La prochaine audience a été fixée au 2 janvier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran ce vendredi pour dénoncer l'emprisonnement de deux universitaires depuis plus de 6 mois. Le point avec Lionel Gaïma.
La France a rappelé à l'ambassadeur iranien son exigence que Fariba Adelkar et Roland Marshall soient libérés sans délai et que les autorités iraniennes fassent preuve d'une totale transparence sur leur situation. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay se dit extrêmement préoccupé sur la situation de Madame Fariba Adelkar qui observe une grève de la faim. Paris a aussi réitéré sa demande d'accès consulaire jusqu'ici refusée. Une universitaire australienne spécialiste du Moyen-Orient, Kylie Moore, Gilbert a également débuté une grève de la faim après 15 mois d'emprisonnement. Les deux chercheuses sont accusées d'espionnage. Elles disent avoir été soumises à de la torture psychologique et à de nombreuses violations de leurs droits humains fondamentaux. Quant à Roland Marshall, spécialiste de la Corne de l'Afrique et chercheur au CERI, il est détenu en Iran depuis juin. Il est accusé de collusion contre la sécurité nationale. Le 10 décembre, le président français Emmanuel Macron avait déjà réclamé la libération sans délai de deux chercheurs français dénonçant une situation intolérable.
La Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des exercices navals conjoints dans l'océan Indien et le golfe d'Oman. Ces entraînements de 4 jours visent à montrer que l'Iran ne peut être isolé, a déclaré la marine iranienne. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Le message de ces exercices est la paix, l'amitié et la sécurité à travers la coopération et l'unité. Leur effet sera de montrer que l'Iran ne peut être isolé, a déclaré le contre-amiral Gholam Reza Tahani à la télévision d'État. M. Tahani a aussi indiqué que les manœuvres auxquelles participent à la fois la marine iranienne et les gardiens de la révolution comprendraient le sauvetage de navires en feu ou en proie à un assaut de pirates ainsi qu'à des exercices de tir. L'objectif est de renforcer la sécurité du commerce maritime international, de combattre la piraterie et le terrorisme et de partager informations et expériences, a-t-il précisé. Ces manœuvres surviennent dans une période de tension accrue dans le Golfe depuis le retrait de Washington en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de sanctions américaines qui asphyxient l'économie de la République islamique.
Les Philippines ont interdit d'entrer dans le pays 2 sénateurs américains et menacé d'imposer l'obligation de visa aux visiteurs américains si Washington applique des sanctions contre des responsables philippins. Richard Durbin et Patrick Leahy ont été interdits d'entrer aux Philippines après avoir introduit dans le budget américain 2020 une disposition visant à empêcher d'entrer aux États-Unis les responsables impliqués dans l'emprisonnement de l'opposante philippine Leila de Lima. La Chine a lancé une fusée Longue Marche 5, étape cruciale dans son programme spatial, notamment pour une mission sur Mars programmée en 2020. Cette fusée très puissante est partie du site de Wenchang à 20h45 local. Après plus de 2000 secondes, le satellite Shijian 20 a été mis en orbite, a précisé l'agence Chine Nouvelle. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a largement remporté la primaire au sein du Likoud, malgré ses ennuis judiciaires, s'est dit prêt à remporter les législatives du 2 mars et à sauver son poste. Il était le favori de ce scrutin interne qui lui avait été imposé par le député ex-ministre Gideon Sarr après son inculpation le mois dernier pour corruption abus de confiance et fraude dans 3 affaires. Le conflit social contre la réforme des retraites en France entre dans son 23e jour. La SNCF demeure très perturbée avec 6 TGV sur 10 et en région parisienne un train de banlieue sur 5. Le taux de grévistes chez les cheminots a enregistré un recul à 8,5% contre 9,6% la veille. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talen.
La compagnie d'électricité nationale zambienne va augmenter les prix pour les clients résidentiels et commerciaux à partir de janvier 2020, alors que le pays cherche à attirer des investissements dans la production d'électricité. L'Office zambien de régulation de l'énergie affirme avoir autorisé ZESCO à augmenter de plus de 200% les tarifs de l'électricité pour les clients résidentiels les moins consommateurs. La nouvelle mesure n'affectera pas les sociétés minières mondiales. ZESCO, confronté à de graves problèmes financiers, a besoin de revenus pour couvrir ses coûts d'exploitation. L'ancienne PDG de la compagnie publique éthiopienne d'électricité et 49 autres personnes ont été inculpées pour corruption. Celle-ci est en lien avec un projet de défrichement d'une forêt au sujet du projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, le principal projet hydroélectrique du pays, a rapporté l'agence de presse officielle ENA. Madame Azem Asnak avait été poussée à démissionner de son poste en 2018 à cause des accusations de corruption et de mauvaise gestion concernant différents projets énergétiques programmés en Éthiopie. Pour terminer, la société nigériane productrice de gaz naturel liquéfié a signé un contrat d'investissement pour son unité de traitement du train 7 ou locomotive à gaz à Abuja. L'accord devrait augmenter la production de gaz naturel liquéfié du Nigeria de 35%, soit 30 millions de tonnes par an.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors qu'est-ce que vous nous proposez ce soir?
D'abord du football féminin Nathalie, précisément au Niger.
Alors justement, j'ai vu que les filles dribblent les interdits pour jouer au football.
Tout à fait, les jeunes nigériennes doivent braver préjugés et clichés si elles veulent faire du foot. La raison est simple, le Niger est un pays majoritairement musulman. Il ne faut pas qu'une fille sorte dans une tenue qui fera ressortir des parties de son corps, notamment les jambes. Conséquence, le football féminin n'est pas permis par l'islam selon certains dignitaires religieux. La religion est vraiment un frein, cela mente Ali Mamadou, le sélectionneur national. En revanche, les jeunes filles l'assurent, la pratique du football n'est pas incompatible avec leur religion. Je fais mes 5 prières quotidiennes, souligne Aïchatou Mohamed, 16 ans. Je suis tombée amoureuse du foot, toute petite, quand je jouais avec les garçons du quartier. Des curieux m'applaudissent même quand je dribble les garçons, explique Aïchatou.
Extraordinaire le courage de ces filles, n'est-ce pas? Direction maintenant vers le pays de la reine Elisabeth II.
Le Royaume-Uni, Nathalie, pour parler de la Première Ligue, le championnat très lucratif. Jeudi, c'était le fameux Boxing Day, avec sur l'affiche 10 matchs. Eh bien, Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah a creusé encore l'écart en allant gagner chez son dauphin Leicester 4-0 pour la 19e journée du championnat. Tout juste sacré champion du monde des clubs au Qatar, les Reds ont relégué leur plus proche poursuivant 13 points à mi-saison.
On passe à la NBA avant de se quitter.
L'actualité dominante, c'est le retour gagnant pour Luka Doncic avec les Mavericks face aux Spurs des San Antonio Spurs, 102-98. À Detroit, les Pistons ont enrayé une spirale de 5 défaites en corrigeant les Wizards de Washington, 132-102. À New York, Julius Randle a aligné 5 paniers primés, un record personnel pour un total de 33 points qui a mené les Knicks à la victoire, 94-82. Contre les Brooklyn Nets dans un derby au Barclays Center. Dans le match entre Utah et Portland, le Jazz a eu le dernier mot 121-115 grâce notamment à Donovan Mitchell qui a marqué 28 de ses 35 points en seconde période. Enfin, les Minnesota Timberwolves ont mis un terme à une longue période de disette, 11 défaites en s'imposant contre les Kings de Sacramento au bout du suspense. Et après deux prolongations, 105 à 104.
Merci beaucoup, Eric, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Poursuite de la grève au Niger, une grève de 48 heures entamée hier dans le secteur de la justice. Les magistrats entendent protester contre la récente révision du statut de la magistrature pour ouvrir l'accès à la fonction de juge à plus de citoyens. Un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Beaucoup d'usagers des services de justice étaient désabusés jeudi matin au tribunal de Niamey où presque tout était à l'arrêt.
Je viens juste de rentrer pour pouvoir avoir une autorisation pour aller voir un ami qui a été arrêté. Et on me dit que les magistrats sont en grève et il faut le lundi. Et moi, j'ai vraiment voulu le voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment décevant.
J'étais venu pour mon nationalité là. Et puis, on m'a dit qu'il y aura un grève pour les magistrats. Vraiment, ça m'a fait retarder vraiment un peu en arrière parce que moi, je voudrais rentrer à l'OME d'ici deux jours. Donc, vraiment, je suis mécontent, vraiment. Vraiment, je suis mécontent de cela.
Par ce mouvement, les magistrats entendent faire revenir le gouvernement sur l'adoption par le Parlement d'une modification du statut de la magistrature nigérienne. Yahaya Doubou, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN.
C'est dans la rue qu'on a appris que notre statut est en train d'être modifié. Le ministère de la Justice avait inséré dans le projet un terme qui est très flou pour être recruté dans une fonction publique, le terme certificat. Un État qui se dit responsable ne peut pas recruter un fonctionnaire du haut niveau qu'un magistrat sur la base d'un certificat. Dans tous les textes de la sous-région, c'est la maîtrise ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Et nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays où on a besoin d'une justice de qualité, que les gouvernants, en tout cas, puissent faire des recrutements déguisés pour avoir des juges taillables et corvéables. La grève, elle est largement suivie à plus de 100%, parce que même ceux qui ne sont pas magistrats au tribunal nous soutiennent.
Pour le garde des Sceaux, cette modification du statut n'est que justice rendue. Mourou Amadou.
Ça va désormais permettre à tous les Nigériens, titulaires de la maîtrise ou du master 1, de pouvoir concourir pour accéder à l'école de formation judiciaire du Niger pour obtenir le diplôme de magistrat. Ceci n'est que justice, ceci n'est qu'équité, parce que les deux premières promotions de l'FJN l'ont été sur la base du master 1. Entre-temps, était intervenue une loi de 2018 qui avait élevé, si vous voulez, le niveau pour concourir à un diplôme de troisième cycle, ce qui pour nous est inacceptable.
Sur le mouvement de grève, le ministre de la Justice estime que vu son caractère illégal, le gouvernement envisage de prendre les mesures pour que les magistrats eux-mêmes respectent la loi. La modification étant adoptée par l'Assemblée nationale, il reste la promulgation de la loi par le président de la République. Le syndicat des magistrats plaide auprès de celui-ci parallèlement au mouvement de grève pour qu'il renvoie le texte en seconde lecture au Parlement. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Alors que la planète se réchauffe, les conditions météorologiques changent de façon drastique dans le monde entier. L'Afrique a fortement ressenti les effets de ces changements au cours de l'année 2019, lorsqu'elle a été touchée par des cyclones, des sécheresses et des pluies diluviennes qui ont affecté les récoltes. Sur un compte rendu de Raël Ombour à Nairobi, Dilidiko relate les défis climatiques auxquels le continent va devoir faire face.
Moi, c'est pour l'Ugali, par rapport à cette histoire de Soro, là, bon. Moi, c'est tel que nos vieux parents le disent, que quand
On est plus précis que la musique, on danse mal. Donc moi je trouve que Soro, il est en train d'entreprendre Vassal. C'est un chemin qui va le mettre à la dérive. Puisque nous on ne voit pas ce qu'il peut nous montrer encore, et puis ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici, que ce gouvernement n'a pas encore réalisé. Et c'est lui qui a au temps des rébellions, c'est lui qui nous a toujours dit que c'est Alassane Ouattara qui est mentor. Alors il connaît cet homme-là, il sait de quoi il est capable. Moi je ne vois pas ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici par rapport à ce qu'est Alassane.
David Kemboy, un agriculteur kényan de 62 ans, trie les tiges de maïs séchées dans sa ferme de 21 hectares située dans le comté de Trans-Nouya. Il transforme ce qui aurait pu être une récolte abondante en ensilage pour nourrir ses troupeaux de bovins. David explique que les fortes pluies ayant touché de nombreuses parties de l'Afrique de l'Est ont donné lieu à de maigres récoltes.
Au moment où nos cultures poussaient, nous espérions d'excellents rendements. Nous avions investi massivement dans tout ce que nous cultivons. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir une récolte satisfaisante, ce qui signifie que beaucoup d'argent a été jeté par la fenêtre.
Des millions de personnes ont été forcées de se déplacer suite aux multiples inondations qui ont affecté cette année la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Ces inondations ont causé des centaines de morts. En novembre, le Soudan du Sud a déclaré l'état d'urgence dans 27 zones avec près d'un million de personnes touchées. Selon l'agence météorologique kényane, les pluies sont causées par une irrégularité appelée dipôle de l'océan Indien, plus connue sous le nom d'El Niño. Il s'agit d'une oscillation de la température de la surface de la mer qui apporte des conditions météorologiques extrêmes aux pays voisins de l'océan Indien. Bernard Chanzu est directeur adjoint de l'agence météorologique kényane. Il indique que presque tout le Kenya a reçu cette année des pluies nettement supérieures à la moyenne.
Dans certaines stations météorologiques, à l'exemple de Meru, nous avons enregistré des seuils de précipitation dépassant les 200% la moyenne à long terme de la région.
Avec les niveaux de dioxyde de carbone atteignant de nouveaux sommets, le docteur Recha, un scientifique spécialisé dans la recherche sur le climat et l'agriculture, déclare que les Africains doivent désormais s'attendre à plus de réactions météorologiques extrêmes.
Les variations climatiques associées à ces événements extrêmes de sécheresse et d'inondations seront de plus en plus fréquentes et intenses dans l'avenir. Cela signifie que différents secteurs seront affectés, la santé, l'agriculture, mais également l'énergie.
Selon des experts comme le docteur Recha, la solution pour David Kemboy et d'autres agriculteurs africains serait de s'adapter au changement climatique. Il estime que cela ne peut se faire sans l'aide du gouvernement et des agences spécialisées qui doivent accompagner les fermiers dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles telles que les méthodes d'irrigation alternatives et les techniques de stockage efficaces de l'eau.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le procureur de la République a détaillé jeudi à Abidjan les chefs d'accusation retenus contre Guillaume Soro, l'ex-chef rebelle et candidat à la présidentielle de 2020. Selon la justice, il préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Des accusations contestées par la défense. Notre correspondant Siriki Barrault a recueilli les réactions d'habitants de Bouaké, ex-fief de la rébellion que dirigeait Guillaume Soro.
Moi, c'est plus d'avis par rapport à cette histoire de Soro. Moi, c'est tel que nos vieux parents nous disent que quand on est plus précis que la musique, on danse mal. Donc moi je trouve que Soro, il est en train d'entreprendre Vassal. C'est un chemin qui va le mettre à la dérive. Puisque nous on ne voit pas ce qu'il peut nous montrer encore, et puis ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici, que ce gouvernement-là n'a pas encore réalisé. Et c'est lui qui a au temps des rébellions, c'est lui qui nous a toujours dit que c'est Alassane Ouattara qui est leur mentor. Alors il connaît cet homme-là, il sait de quoi il est capable. Moi je ne vois pas ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici.
par rapport à ce qu'est Alassane en train de faire aujourd'hui. Je trouve qu'il a des mauvais conseillers à court de lui. Ils sont en train de pousser dans un tour pour ne pas s'en sortir.
Bon, pendant 5 ans que le pays avance, et il cherche à revenir en arrière. C'est même pas joli à voir, c'est honte pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Si il pouvait s'y retourner en famille, je crois que c'est très bien. C'est trop difficile, quoi. C'est pas joli à voir, quoi. C'est très bien. On en est marre de la guerre. Chaque fois la guerre, là, ils n'ont pas cherché à se réconcilier normalement. Les trahisons, ils n'ont pas arrêté. C'est pas joli à voir. La Côte d'Ivoire est trop évoluée pour ça, quoi.
Sincèrement, M. Sourou Bafoury Guillaume ne pouvait pas prendre sa démission, comme on l'appelle, à l'Assemblée nationale, qui a été vraiment une grave erreur de sa part. Je dirais aussi qu'il s'est pressé parce que d'avis, tout le monde pensait que après la fin du mandat du président Ouattara, c'est lui qui sera son successeur. Il a été vraiment un peu pressé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En cette année 2019, les innovateurs africains ont continué de progresser avec toutes sortes de solutions aux problèmes de développement. Un jeune Malien a notamment créé une application spéciale à commande vocale que les entrepreneurs utilisent pour commercialiser leurs produits et services auprès de clients qui ne savent pas lire. Davantage de précisions sur cette innovation avec Arzuma Compaoré.
Comme beaucoup d'autres entrepreneurs analphabètes au Mali, Ada Tembeli a trouvé une nouvelle façon de faire des affaires via les médias sociaux et cela grâce à l'application vocale Lenali. Ada Tembeli, vendeuse de fruits et légumes.
Voici vos beaux fruits. Nous avons de belles oranges mûres, des pommes, des bananes, sans oublier de mentionner les ananas. Aujourd'hui, nous avons presque tout pour vous satisfaire. Pour nous trouver, allez au troisième pont et vous me verrez.
Tembeli a déclaré que ses revenus ont triplé depuis qu'elle a commencé à l'utiliser l'application qui, tout comme Facebook, offre aux utilisateurs des options telles que les j'aime et les publications. Son interface est disponible dans différentes langues locales.
Je l'ai installé moi-même parce que l'Enali a le Bambara, le Soninké et presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a du Bambara, je suis évidemment intéressée.
Goïta est alphabétisé, mais beaucoup de gens qui l'essaient de joindre ne le sont pas. Il affirme que l'Enali est devenue populaire auprès des jeunes et que ses ventes de motos ont augmenté de 5% cette année, car désormais il peut promouvoir ses produits et partager des informations avec des clients qui ne savent pas lire.
J'utilise l'Enali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour.
L'Enali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur informatique du Mali. Il a dû quitter une carrière prometteuse en France pour travailler sur ce qu'il dit être le seul réseau vocal au monde disponible dans différentes langues ouest-africaines telles que le Bambara et le Soninké qui sont parlées au Mali.
Je pense à dire que l'Enali va être un réseau social, donc vocal en langue locale. Donc parce qu'il fallait permettre aux personnes comme lui déjà de comprendre ce qu'ils font quand ils essaient d'installer. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes installent, se font installer des outils parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait des guides vocaux, des instructions vocales en langue locale. Donc, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. Et jusqu'à arriver à un profil vocal où, si on sait écrire, on met de façon écrite son profil. Mais si on ne sait pas le faire, on les dit et puis l'application enregistre. Ensuite, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot.
Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens sont alphabétisés. L'application gratuite, disponible depuis janvier 2017, compte aujourd'hui 73 500 utilisateurs, a déclaré Sidi B et devrait devenir rentable lorsqu'elle atteindra 200 000 utilisateurs.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Joselle Morissin et Cornelius Tineur. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour un rappel des grands titres de l'actualité. Thank you.